Et les matins débutent avec le journal de Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le vote pour les élections européennes commence ce matin aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Un scrutin marqué par la tendance eurosceptique. Nous serons en direct de Maastricht dès le début de ce journal. Et puis, nous analyserons en France le débat qui s'est tenu hier soir sur le plateau de France 2 et sur France Inter avec Stéphane Robert.
En Inde, le parti nationaliste hindou au pouvoir pourrait sortir largement vainqueur des élections législatives.
Et les premières tendances se confirment avec la crainte d'une politique anti-laïcité renforcée pour les 5 ans à venir, nous dira Sébastien Farcy à New Delhi. Et puis, une manifestation hier aux États-Unis pour réclamer l'instauration d'un salaire minimum à 15 dollars de l'heure. On y reviendra.
Et puis, la question du jour, ça sera dans une dizaine de minutes. Comment expliquer la baisse de qualité du sperme? On posera cette question à Jean-Philippe Wolf. Tout autre chose en France, 10 mois de prison, dont 4 mois avec sursis. C'est la peine prononcée hier pour violence commise en raison de l'identité de genre.
On entendra Julia, la personne qui avait donc été adressée place de la République. Sa vidéo avait fait le tour des réseaux sociaux. Le vote pour les élections européennes commence dès ce matin aux Pays-Bas où les eurosceptiques sont en force. Les sondages leur prédisent 20% des sièges au Parlement. Angélique Boin, bonjour.
Bonjour.
En direct de Maastricht pour France Culture, une dynamique eurosceptique portée par l'arrivée d'un nouveau leader inconnu il y a 3 ans.
Oui, Thierry Baudet. Alors, il y a toujours dans le paysage politique Geert Wilders, hein, du Parti pour la Liberté, mais il est en train de se faire détrôner par cet homme, 36 ans, Thierry Baudet, donc un ancien universitaire passé à la politique et surnommé le dandy depuis qu'il a posé nu sur les réseaux sociaux. Un homme dont la formation politique, un forum pour la démocratie, est devenu la première force politique à la première chambre en mars dernier, l'équivalent de notre Sénat, en y envoyant 13 députés contre 12 pour le parti du Premier ministre libéral Mark Rutte.
Quels sont les ressorts de ce succès ?
Alors c'est d'abord un parti anti-migrant. La difficile intégration de la vague de réfugiés de 2015 a laissé des traces dans ce pays. Thierry Baudet est moins ouvertement raciste que Geert Wilders. Il récupère donc des voix chez lui ainsi que chez les conservateurs. Thierry Baudet est aussi un eurosceptique pour qui Bruxelles dilapide l'argent des contribuables. Aujourd'hui le pays va très bien, taux de croissance supérieur à 3%, très peu de chômage. Mais les classes populaires ont souffert des politiques d'austérité qui ont remis le pays sur pied après la crise financière. Enfin, son parti est climato-sceptique. Lutter contre la pollution coûte cher aux citoyens. C'est aux Chinois et aux pays de l'Est à payer, pas à nous, entend-on dans ses meetings. C'est un ressort très puissant chez ses militants dans un pays où l'on fait beaucoup pour l'environnement.
Merci Angélique Boin, en direct ce matin de Maastricht aux Pays-Bas pour France Culture. Au Royaume-Uni, c'est une drôle d'élection qui se déroule aussi aujourd'hui sur fond de crise politique. Les Britanniques votent pour élire 73 députés européens, des députés qui ne siégeront peut-être jamais. Ce scrutin aux allures de deuxième référendum sur la sortie de l'Union européenne devrait consacrer la défaite des grands partis de gauche comme de droite, battus largement par le parti du Brexit de Nigel Farage, selon les enquêtes d'opinion. L'ancien dirigeant du parti d'extrême droite, UKIP, est de retour avec son nouveau mouvement et il a réussi à entraîner avec lui beaucoup d'entrepreneurs, comme Didier Delmer, ce Français installé en Angleterre, a voté pour la sortie de l'Union européenne et il s'occupe maintenant de la section locale du parti dans le Berkshire, dans le sud-est de l'Angleterre. Antoine Gignoux l'a rencontré.
Nigel Farage, pour lui, c'est une sorte de Margaret Thatcher au masculin.
C'est de la politique bon sens.
Didier Delmer aide depuis plus de 10 ans les sociétés françaises à s'implanter au Royaume-Uni. Le parti du Brexit, c'est, dit-il, un instrument pour mettre fin aux perturbations.
On est dans une impasse politique, on a une incertitude qui est une honte. Les gens en ont marre, donc le Brexit Party, c'est ni plus ni moins qu'une start-up de la politique, calqué sur les campagnes à l'américaine, notamment des campagnes de Trump, ok, et qu'on a européanisé.
Et l'Europe, Didier la préférait à 12 qu'à 28. Il regrette l'élargissement vers les pays de l'Est.
Un Roumain, un Estonien, c'est pas un Anglais, c'est pas un Espagnol.
Mais pas question pour autant de laisser dire que son parti est xénophobe, comme ont pu l'être par le passé les déclarations de plusieurs élus de UKIP, l'ancien mouvement politique de Nigel Farage.
Bah moi qui suis marié avec une musulmane depuis 15 ans, je mets au challenge de trouver... En 8 semaines de campagne, on n'a pas prononcé une seule fois le mot migrant ou le mot immigration. Allez-y,
vérifiez. C'est aussi ce qu'il dit à propos des comptes de campagne après la condamnation aux États-Unis d'un ancien aide de camp de Nigel Farage, interpellé en 2016 pour extorsion, blanchiment d'argent et fraude. Le Brexit Party est au centre de toutes les attentions.
Et hier, le ministre chargé du Parlement a démissionné. Une partie des conservateurs réclame maintenant le départ de la première ministre Theresa May. En France, le vote est dans 3 jours et hier soir, 14 représentants politiques, des têtes de liste et des chefs de parti ont participé à 2 débats sur le plateau de France 2 et de France Inter. Le premier entre les 2 listes données favorites dans les sondages, le second débat entre ceux que l'on qualifie de petits candidats, en tout cas loin derrière dans les intentions de vote. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour.
Chef du service politique de France Culture. Alors le premier débat était une sorte de joute avec d'un côté des participants jouant en attaque et d'autres en défense.
Oui, il y a d'abord eu ce premier débat de 21h à 22h30 qui regroupait les têtes d'affiche et on a assisté effectivement pendant 7h30 à un combat, une sorte de joute avec 4 candidats qui jouaient en attaque, soit qui attaquaient indirectement leur adversaire à l'image de Yannick Jadot.
Le président Macron a décidé ces dernières semaines de devenir écolo parce qu'il l'affirme, et les dirigeants d'En Marche l'affirment dans les journaux, il faut ratisser les voies d'Europe écologique.
Soit directement comme Raphaël Glucksmann prenant à partie François Bayrou présent sur le plateau.
Il faut casser l'Europe du dumping social parce que sinon c'est la construction européenne, M. Bayrou, qui va être cassée. Et il y a eu une mesure proposée par Bruxelles qui s'appelle le congé parental paritaire, qui était une mesure de progrès social immense. Eh bien, ce congé parental, il a été refusé par Emmanuel Macron parce que cela coûtait trop cher.
Le plus fort à ce petit jeu, c'était Laurent Wauquiez qui, la plupart du temps, quand il portait une attaque, essayait de faire coup double.
Sur ce débat-là, on voit très bien les 2 caricatures des positions. On cherche à nous dire, au fond, vous n'avez le choix qu'entre 2 alternatives. Monsieur Bayrou avec Monsieur Macron, c'est juste protection européenne. Madame Le Pen, c'est juste protection nationale. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'au contraire, il faut articuler, on est les seuls à faire cette proposition, une double protection de nos frontières.
En face, les 2 qui jouaient en défense, François Bayrou représentant La République En Marche et Marine Le Pen pour le Rassemblement National, essayaient tant bien que mal de parer et de rendre les coups.
Marine Le Pen, est-ce que vous avez été mise en place par Laurent Wauquiez, puis après on va passer au dernier vote de la soirée. Marine Le Pen.
Non, mais on va peut-être répondre aussi à ça.
Moi j'aime bien parce que depuis que Laurent Wauquiez a exactement le même programme que le mien, du coup je gagne le double temps en fait pour exposer mes idées.
On a donc assisté hier soir à un débat pleinement, complètement structuré par les sondages et les intentions de vote avec d'un côté les 2 représentants des listes favorites, En Marche et le Rassemblement National, et puis 4 autres candidats qui tentaient de refaire leur retard.
Merci Stéphane Robert, en direct ce matin sur France Culture.
7h07, la suite des matins sur France Culture avec le journal de Sophie Delpont en Inde. Les premières tendances donnent une nette avance du parti nationaliste hindou pour les élections législatives.
Mais 900 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour un vote qui s'est tenu sur 6 semaines dans cet immense pays, 3e économie asiatique. Et ces premiers résultats confirment les sondages prédisant une large victoire de la majorité au pouvoir et du parti nationaliste hindou. Ce dirigeant charismatique, Narendra Modi, est toutefois controversé à cause de sa politique hindouiste qui tente à opprimer la minorité musulmane. Et certains intellectuels indiens craignent, en cas de nouvelle victoire qui s'annonce, que les hindouistes n'effacent toute trace de la laïcité qui a servi de fondation à l'Inde depuis 70 ans. À New Delhi, les précisions de Sébastien Farsi de RFI pour France Culture.
Depuis 5 ans, le gouvernement du BJP a mené une politique hindouiste féroce. Interdiction quasi totale de l'abattage des vaches, considérées comme sacrées. Tolérance, voire soutien des milices qui tuent des musulmans transportant du bétail. Et enfin, ostracisation de la population musulmane qui est poussée à adopter des pratiques hindoues. Si ce gouvernement est reconduit, la poursuite de cette politique inquiète Nilanjan Mukhopadhyay, journaliste spécialisé du suprémacisme hindou.
Notre premier ministre est un populiste autoritaire et il est en train de faire de l'Inde une démocratie ethnique qui favorise surtout la majorité hindoue. Si l'Inde passe sous le contrôle du BJP pendant longtemps, je pense que le pays va devenir comme Israël actuellement, où les juifs dominent la société. Modi, lui, va plus loin car il a dit qu'il était nécessaire de purifier les musulmans pour en faire des hindous.
Le programme du BJP ne prévoit aucun soutien aux minorités religieuses, mais de grands plans pour le renforcement de l'idéologie hindouiste dans la société. Lors de ces élections, moins de 2% des candidats du BJP étaient des musulmans, alors que cette communauté représente plus de 13% de la population indienne.
Sébastien Farsi, le correspondant de RFI pour France Culture en Inde. Aux États-Unis, 10 villes à travers le pays connaissent des grèves aujourd'hui pour défendre l'idée d'un salaire minimum universel à 15 $. Un mouvement lancé par les employés de la restauration rapide, notamment chez McDonald's, en première ligne sur ce mouvement depuis des années. Des grèves destinées également à dénoncer les nombreux cas de harcèlement sexuel chez McDonald's. On apprenait mardi qu'une 20aine de nouvelles plaintes avaient été déposées contre le géant de la restauration rapide. En France, une réunion de crise organisée aujourd'hui à Bercy autour de l'aciérie d'Ascoval de Saint-Saulve. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, reçoit à 15h30 la direction, les représentants syndicaux et des élus des Hauts-de-France et de Valenciennes. Car hier, le sidérurgiste britannique British Steel, dont la maison mère vient de reprendre Ascoval, a été placé en redressement judiciaire. Les 270 salariés d'Ascoval sont sous le choc. On y reviendra à 7h30 sur France Culture. Un homme de 23 ans condamné hier à 10 mois de prison, dont 4 mois avec sursis, pour violences commises en raison de l'identité de genre. L'agresseur a reconnu avoir agressé Julia, une femme transgenre. Des faits qui ont eu lieu place de la République à Paris, c'était le 31 mars dernier. La scène filmée avait tourné en boucle sur les réseaux sociaux. Cette peine de prison ferme n'est pas pour Julia la meilleure solution. Pour elle, c'est d'abord une prise de conscience plus large qui est nécessaire.
Je suis pas sûr que la prison, il a dit qu'il avait beaucoup réfléchi et qu'il avait pensé à ce qui s'était passé. J'espère que oui, ça le fera réfléchir peut-être en étant en prison sur ses actes et que ça se reproduira pas derrière et qu'il recommencera pas. Après, bon, je pense qu'il y avait peut-être d'autres moyens de plus le sensibiliser en tout cas. Je suis pas sûr que lui me considère comme une femme trans. Je pense que dans sa tête, je suis plutôt un homme habillé en femme. Mais on le voit au moment des propos, ce sont des propos homophobes. Je pense qu'il a compris que malheureusement, il paye un petit peu pour tout le monde. C'est vrai que c'est dommage parce qu'il est c'est le seul à avoir été interpellé. Il aurait dû y avoir d'autres personnes derrière ce présentoir. Mais après, ce qui est important, c'est que la justice a quand même fait son travail dans cette affaire. Il faut donc comprendre que pour toutes les personnes qui regardent, ce genre d'acte est bien puni par la loi en France, que ce soit des actes homophobes ou transphobes. La justice a quand même fait son travail.
Julia au micro France Culture de Maud Calves. Selon le rapport annuel 2018 de l'association SOS Homophobie, 186 personnes transgenres ont signalé en 2017 une agression en raison de leur identité de genre. Une hausse de 54% par rapport à l'année précédente. Un reportage de la rédaction sur le sujet est à retrouver sur franceculture.fr. La météo, du beau temps partout aujourd'hui pour une journée aux températures douces avec ce matin en moyenne 16 à 23 degrés. 16 degrés à Brest, 18 à Nice, 19 à Lyon, 20 degrés à Paris et jusqu'à 23 degrés à Nîmes.
Eh bien, merci beaucoup Sophie Delpont.